Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h04, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, et on est ensemble, aujourd'hui, comme chaque jour, jusqu'à 15h, avec autour de la table Rémi Barré, avec le journaliste Thierry Moreau, la journaliste indépendante Emmanuel Dancourt, et le journaliste Daniel Riolo. On est avec vous également au 32-16 et sur l'appli RMC pour réagir à tous nos débats, et dans un instant, celui-ci autour du président de la SNCF, qui octroie de gros avantages aux salariés du groupe pour éviter les grèves. Est-ce logique ou choquant? À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, on parlera de l'explosion du nombre de loyers impayés en France, plus 300% en 3 ans. Faut-il expulser sans délai les locataires indélicats? Il y aura RMC Cosson, on parlera de l'échange de maisons pour les vacances avec Charlotte Méritant. Est-ce vraiment un bon plan? Et puis on vous fait gagner des places exceptionnelles pour les JO, Rémi.
Oui, demain nous serons à J-100 des Jeux Olympiques de Paris et nous vous offrons 100 places sur RMC, que ce soit pour vous, pour vos amis, pour votre famille. C'est ici que ces places se gagnent, elles se font rares. Sur RMC donc, vous allez pouvoir emporter vos 2 places pour assister aux épreuves de JO. Ça peut être la finale du 100 mètres, le natation 4x4 nage, le tennis de table, le judo ou bien plus encore. Pour vous inscrire, vous envoyez Paris 2024 par SMS au 732-16. Paris 2024 par SMS au 732-16.
RMC, Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va tout de suite s'intéresser à l'opération séduction du jour et c'est celle de Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF. Afin d'éviter des grèves pendant les ponts du mois de mai et surtout les Jeux Olympiques, eh bien il a décidé d'octroyer des avantages substantiels à ses salariés. Primes, dispositifs retraite améliorés, échelons supplémentaires dans la grille salariale. Les syndicats sont ravis, Rémi, ce qui n'est quand même pas courant du côté de la SNCF.
Oui, justement. À tel point que d'après le Figaro, les menaces de grève lors des ponts du mois de mai ne seraient plus d'actualité. Même Sudrail, à la pointe du combat syndical, serait sur le point de signer un accord, d'après le quotidien.
Sur le point seulement.
Sur le point.
Même,
C'est-à-dire qu'officiellement.
Pas trop vite, hein.
Non, mais officiellement, Sudrail dit non, on va voir.
Bon. Ouais, bon, enfin, bon,
mais pour cause. D'après les propositions faites par la direction, les agents qui sont à quelques années de la retraite pourraient ainsi désormais prétendre à une cessation d'activité anticipée plus longue, 18 mois au lieu de 12, avec une rémunération de 75% de leur salaire au lieu de 60% à l'heure actuelle. Les contrôleurs de la SNCF, qui sont responsables de la dernière grève très suivie
en février dernier.
Un petit peu plus. Ils ont même droit à un traitement privilégié. Leur cessation anticipée d'activité pour aller jusqu'à 36 mois.
Oui, 3 ans.
Pour tenir compte de l'allongement de carrière, conséquence de la réforme des retraites, la SNCF offre par ailleurs de nouvelles facilités. Les agents qui ne peuvent plus tenir un poste pénible et donc toucher les primes qui vont avec,
ont c'est le droit... C'est quoi pénible? C'est juste se lever le matin ou c'est un peu plus?
Oh, Daniel.
Donc, les agents qui ne peuvent plus tenir un poste pénible et donc qui ne pourront plus toucher les primes qui vont avec, auront le droit à un coup de pouce financier. 3000 euros la première année, 2005 la deuxième, 2000 euros la troisième. De même, le groupe va créer un grade supplémentaire dans la grille salariale. L'idée, c'est de permettre aux agents de 55 ans, au moins, d'avoir encore des perspectives et de percevoir un plus gros salaire sans changer de fonction.
Il devrait avoir moins de mal à recruter, tiens, la SNCF. Alors, est-ce logique ou choquant tous ces avantages pour éviter les grèves? Je commence avec vous, Daniel Riolo.
Il a très envie, Daniel. Ben oui, c'est son sujet.
Je vous
c'est
sens son sujet. Sur le sujet, donc écoutez, allez-y.
Non, mais déjà... quand on a eu le sujet, c'est de voir que il y avait opération séduction et lire dans la phrase d'après que les syndicats avaient été séduits. Alors là, déjà rien que ça, on aurait pu s'arrêter là parce que déjà c'est formidable. La CGT va signer. Ils vont signer un accord.
C'est et ils s'en félicitent.
C'est dire s'ils se sont fait rincer. Quant à Sudrail Rémy, j'ai peur qu'il y ait réflexion quand même.
Arrête.
J'ai peur que prendre le stylo pour signer ce soit trop lourd pour eux quand même. Ils vont réfléchir. En tout cas, on a sauvé les ponts de mai. Ouais. Mais pour les JO, il y a rien de fait, Rémi. Là, t'emballes pas, il y a rien de fait. Sudrail a quand même encore.
Non, mais les avancées sont énormes quand même.
Sudrail a pas retiré.
Non mais tu as raison, parce que pour les JO, ils disent que là, bon voilà, c'était des revendications qui dataient de il y a deux ans.
On a rattrapé,
Et que pour les JO,
on a sauvé les ponts de mai. Tu vas pouvoir partir au mois de mai, Estelle. Ça, il y a pas de problème. Mais pour les JO, c'est pas gagné. Écoute, oui, les avancées semblent folles. Moi, je voyais Thierry qui faisait comme ça avec la tête, il doit dîner, dire c'est bon. Mais en fait, le problème, c'est que ça va coûter beaucoup d'argent.
10 millions.
Ah, j'avais même entendu un petit peu plus. 10 millions, c'est déjà pas mal. Mais de toute façon, à partir du moment où ils sont seuls sur... Bon, alors, vous allez dire, oui, ici, la concurrence...
Enfin, la concurrence, elle n'est pas vraiment là encore.
Hein. Oh là merci, là. Emma. J'allais dire, mais oh là là. Pas complètement là. Ouais. En fait, s'ils sont sans arrêt dans le combat et qu'il n'y a pas de concurrence, bah, il y a des chances que le combat, petit à petit, réussisse à grignoter. Après, moi, s'ils sont dans le combat social et qu'ils réussissent à gagner des choses, voilà. Et si tu as un mec qui est un patron qui dit que ça ne ruine pas l'entreprise et que les salariés sont contents, moi, je suis pas contre la satisfaction des salariés, bien au contraire. Il faut juste voir si ça coûte pas trop cher ni à l'entreprise et en l'occurrence à la collectivité. Et après, on a le droit de se demander si, avec une concurrence plus importante dans ce secteur-là, bah, il pourrait avoir besoin et d'autant de faveurs et si il pourrait être séduit à cette hauteur-là.
Attends qu'ils mettent Carlos Tavares à la tête de la SNCF, tu vas voir.
Emmanuel Doncourt, est-ce que vous dites, bah, finalement, bravo les syndicats parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, donc félicitations, ou quelque part, vous dites, ouais, mais c'est quand même un peu abusé. Bah,
ils ont eu ce qu'ils voulaient.
Pour pas avoir de grève.
Enfin, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Enfin, on va quand même se rappeler qu'il y a 150 000 personnes qui sont restées sur le quai de gare pendant les vacances de février. Ah, déjà à Noël, ça avait été extrêmement compliqué. Donc les deux dernières périodes de vacances, ça a été un enfer pour beaucoup, beaucoup de gens. Donc ils ont joué leur carte, les syndicats. Et effectivement, ils vivent une grande histoire d'amour là avec Farandou en ce moment. Ouais. Les ponts de Metz ont sauvé. Ça n'a pas toujours été le cas. Après, moi, j'ai la prudence de Daniel aussi de dire on n'est pas encore au JO. Attendons de voir. Mais c'est vrai que les avancées sont exceptionnelles.
Là, ce serait pas possible.
On va quand même pas râler.
Ah, profiter de
parce
ça,
qu'il y a des gens qui arrivent à obtenir un peu plus de pouvoir d'achat.
Bon, on est content pour boîte, eux.
Ah, bah, évidemment, il ne faut pas que ça ruine la boîte.
10 millions, ça ruine la boîte.
Il le ferait pas. Attends, Farandou, il le ferait pas si ça ruinait la boîte. Évidemment.
C'est pour ça qu'après tout, tant mieux si.
Évidemment. Après, bon, voilà.
Ils sont satisfaits.
Si ça ruine pas la boîte et qu'on a le budget.
Après, allons-y. Hein. Là, pour le coup, s'ils refont grève, compte tenu de tout ce qu'ils ont obtenu, c'est vrai que par rapport à la population française, ça passerait moins bien.
Ils n'auront pas l'opinion publique avec eux.
Je pense que ça les préoccupe, ça
les empêchera pas de le faire.
Ah oui, je pense, oui.
Alors là,
quand tu peux partir à la retraite 3 ans avant, enfin, tu vois, avec des conditions comme ça, oui.
Finalement, là, avec tout ça, c'est quoi le départ à la retraite pour eux? C'est 48, 49 ans?
Non, en fait, ils partent quand même à 64, enfin, ça peut être un peu plus tôt, ils partent à 62, mais si tu veux, grosso modo, un an et demi avant de 62, bon, on commence déjà à lever le pied, quoi.
Et c'est quand même une indépendante qui vous parle. Hein. Et pour autant, il n'y a pas de jalousie à avoir.
Tous les deux extrêmement naïfs, notamment sur le surcoût, parce que le surcoût, qui va le payer? Ça va être... évidemment,
évoqué, c'est le prix du billet.
Okay. Évidemment, avec le voyageur,
bien
avec
sûr,
le billet
bien
et
sûr.
Le contribuable, parce que bien je vous rappelle sûr. Que tous les ans, l'État, le déficit de la SNCF, enfin les emprunts, les dettes de la SNCF sont en partie remboursées par l'État. La dernière fois, c'est 10 milliards, je crois, il y a 2 ans. Donc, je vous trouve extrêmement naïf. Moi, ce qui me choque le plus, vous parliez tout à l'heure de symboles, d'équité, etc. Je trouve ça lamentable, en fait. À un moment où le gouvernement explique, on ne veut plus, par exemple, que les seniors bénéficient du chômage quand ils sont âgés, parce que, en fait, les entreprises vous envoient la pré-retraite, vous laissent au chômage pendant 2-3 ans, puis après, vous touchez votre retraite. Là, on a un dispositif qui est pile poil pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un grade supérieur où ils vont être mieux payés pour faire le même travail. Je vous rappelle qu'ils partent avec les 6 derniers mois de salaire. C'est là-dessus qu'est indexé leur retraite. Je rappelle quand même un chiffre qui est donné par l'INSEE. Moyenne des pensions de retraite des agents de la SNCF, 3 310 euros. 3 310 euros qui,
attends,
aujourd'hui...
Ça paraît beaucoup.
Ah, c'est la moyenne de l'INSEE. Énorme. Brut. C'est la moyenne de l'INSEE. 3 310 euros brut.
C'est une moyenne, ouais.
C'est une moyenne. Alors, il y en a qui ont beaucoup plus.
Oui, c'est ça, moins. Oui.
OK, d'accord. Enfin... Il y a un moment, enfin, je veux dire, c'est un truc sur mesure. Alors après, ils ont raison. Et là, je rejoins ce qu'ont dit mes deux camarades. Ils ont un moyen de pression. Les syndicats, leur survie aujourd'hui, les syndicats comme la CGT et Sud, leur survie, c'est de continuer à se battre pour ces bastions syndicaux où ils sont hyper forts, parce que dans le reste de la population salariale, ils ne pèsent pas. Donc évidemment, leur survie à eux en tant que syndicat, je parle des syndicats radicaux, je ne parle pas des syndicats réformistes comme la CFDT, mais les syndicats radicaux, leur survie, c'est de défendre ces bastions-là. Ils les défendent très très bien. Mais encore une fois, c'est l'usager, c'est le contribuable qui va payer. Et en plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça ne nous met pas à l'abri d'une prochaine grève, parce qu'ils n'auront absolument aucun scrupule, y compris si ça ne plaît pas à la population, de faire grève dans les prochains mois.
T'as dit 3 000
3 310 euros.
C'est 2 fois plus que la retraite moyenne d'un Français. Voilà.
Alors on va demander justement à Brice ce qu'il en pense. Brice, c'est un habitué de l'émission. Il est conducteur de train et il nous appelle de Couvonges dans la Meuse. Bonjour Brice.
Ouais, bonjour à tous.
Bonjour.
Bon, bah écoutez, avant d'aller passer devant le peloton d'exécution.
Mais non, Mais nous, on est content pour vous, hein, Brice. Hein.
Moi, je suis pas sûr. Je vais passer bonjour à Kevin, qui est en voiture, un collègue, là, qui va bosser.
Très bien.
À tous mes collègues, bien sûr, qui sont au boulot, sûrement, qui m'entendent.
C'est champagne aujourd'hui, Brice, ou pas?
C'est quoi?
C'est champagne?
Non. Bah, écoutez, je vais vous dire, toutes ces choses qu'ils ont proposées, c'est pour des gens en fin d'activité. Je vous explique. Moi, je suis à l'Axpic. Bah,
vous le serez tous un jour.
Non, mais attendez. Laissez-moi terminer, sinon je ne vous comprendrai pas.
Oui, d'accord.
Moi, j'ai 45 ans. Je suis au TER.
Oui.
Avant 2031, on est obligé de passer à la concurrence, à l'ouverture à la concurrence. Là, les SNCF ne peuvent plus répondre à son nom propre.
D'accord.
On va passer soit sous une filiale, soit sous un statut privé. Donc, du coup, tout ce qui est dit là n'engage que la SNCF. Demain, si je suis... Je ne sais pas si j'ai le droit de citer un nom d'entreprise ou deux.
Si, allez-y, ça, allez-y.
Veolia, Keolis, je ne sais pas. Ça n'engage que la SNCF.
Oui, mais d'accord, mais Brice, vous êtes un cas particulier. Mais vous avez beaucoup de gens qui travaillent à la SNCF et pour qui c'est formidable.
Oui, mais il y a déjà des secteurs, des pans de TER qui sont partis au privé dans le sud, je crois. Là, il y a en Champagne-Ardenne qui va tomber pour 2028. Mmh. Vous avez plein de gens qui sont bien loin de la retraite, parce que comme contrairement à ce que dit Daniel, à 48 ans, je serai pas en retraite. Hein. Bon, Daniel, je sais que c'est un sujet qui allait vous plaire. Hein. Quand on m'a appelé ce matin, j'ai dit, oh, bah, Daniel va rigoler.
Non, Brice, j'ai même dit, comme Emma d'ailleurs, que après tout, si vous avez obtenu gain de cause, je ne peux que me féliciter pour vous.
Bah, oui.
Ce qu'il faut, c'est que que ça creuse pas de trous dans l'entreprise. Mais moi, après, j'ai aucun problème.
Après, moi, je passe ma vie dans les TER et dans les TGV, donc je vais pas me flinguer avec la SNCF, si tu veux. Si je croise Brice, moi, je vais être tranquille pour le trajet. Si
non, mais après, Brice, vous, c'est un cas particulier, mais on va dire que vous étiez encore sous le giron de la SNCF.
Non, je ne suis pas un cas particulier. Il y a combien de gens qui ont 45 ans? Je veux dire, moi, je fais partie de la, on va dire les embauches 35 heures. Vous savez, au moment où c'est passé, ils ont embauché massivement des gens, des jeunes comme moi, et on est tous il y a beaucoup de gens dans cette stature-là. Donc en fait, ils savent que là, ils font un cadeau. Alors, ils font un cadeau à certaines personnes, et tant mieux pour eux, tant mieux pour les collègues qui pourront bénéficier. Mais déjà, moi, il y a plein de questions que je me pose. Déjà, mon salaire, vous voulez, j'ai mon traitement de base en janvier, il est à 2033. Je suis rentré en février 2003 dans l'entreprise. Je
veux dire, non mais bien sûr. Moi, non mais ça fait 20 ans, j'entends.
Mon salaire, il est bas. Je veux dire, dans les journaux, vous en avez parlé, même le 10 décembre sur BFM, salaire trop bas. Il rappelle même des retraités. Vous savez quand même qu'avec une visite médicale comme on passe, on n'ira pas au bout.
J'entends, Brice. Alors après, je comprends tout ce qui reste à faire, etc. Et votre cas, bien sûr, voilà, on parlait des 3300 euros de moyenne de retraite. Ce ne sera pas votre cas parce que vous gagnez 2000 euros après 20 ans de carrière. Donc ça, je l'entends. Mais c'est vrai qu'après, alors là, vous êtes conducteur de TER, mais il y a aussi des conducteurs de TGV. Il y a beaucoup de contrôleurs SNCF qui, eux, vont bénéficier de ces avantages. Et c'est quand même pas rien. Comme avantage, Rémi les a rappelés tout à l'heure, mais après je comprends que voilà, si vous n'en bénéficiez pas, évidemment voilà, vous êtes forcément moins content que vos collègues. Merci beaucoup Brice en tout cas d'avoir été avec nous, et on a pas mal de messages qui tombent sur la pierre MC Rémi.
Allez, j'ai ce message de Ben qui nous dit: en quoi ça change, Daniel, pour une fois la direction de la SNCF se comporte de manière professionnelle? C'est ce que pense Ben.
C'est ce que j'ai dit. Hein.
Et donne quelque chose aux salariés, ça va lui retirer une partie de son salaire. Il parle de toi. La SNCF est bénéficiaire, quel est le problème? Voilà ce que nous dit Ben.
La SNCF est voyageur.
Est-ce que j'ai dit autre chose? À part deux, trois blagues, j'ai pas dit.
C'est la partie voyageur qui est bénéficiaire. Il faut jamais oublier que la SNCF a été scindée en plusieurs morceaux, que les rails, c'est une catastrophe, qu'il y a un
certain. Le prix des billets, c'est une catastrophe aussi.
Voilà, donc que les voyageurs soient bénéficiaires, c'est quand même une toute petite partie de l'entité globale de la SNCF qui est bénéficiaire.
Et ces 10 millions, il faudrait bien les faire payer à quelqu'un.
C'est le contribuable qui leur enfloue, il faut jamais l'oublier, à coût de dizaines de milliards.
Évidemment, et encore une fois, et tant mieux pour les salariés de la SNCF.
Oui, mais sauf que.
Mais le prix des billets va forcément augmenter, donc voilà.
La dernière fois qu'on a eu ce débat, on a eu un syndicaliste qui nous a expliqué que ça permet, parce qu'ils sont à l'avancée de la lutte et qu'il y a ensuite du ruissellement. Vous avez vu du ruissellement sur les privés, les indépendants comme Emmanuel ou comme d'autres?
Non, mais ça ruisselle jamais sur les indépendants.
Vous avez vu du ruissellement sur le privé? Aucun, jamais.
Non, mais alors,
ils bossent pour leurs pommes. Oui, alors, ils ont raison, s'ils gagnent, tant mieux pour eux, mais c'est pour leurs pommes.
Mais sauf que ce qui peut ruisseler, je vais te dire, c'est là le fait que, par exemple, entreprises comme EDF, etc., peuvent se dire, attends, la SNCF, ils ont obtenu ça, peut-être que nous aussi à EDF, on peut le faire avec les mêmes menaces de grève, etc.
Bah oui.
Là, tu peux avoir un ruissellement de la menace de grève, en fait. Parce que mine de
dans
rien.
Dans tous les bastions syndicaux.
Oui.
Je suis d'accord avec
exactement,
vous.
Mais ils ont obtenu beaucoup, et je pense, franchement, voilà, aujourd'hui, je pense que les salariés de la SNCF sont très heureux. Bon, on a eu Brice qui n'était pas trop, mais la majorité sont très heureux. Mais dans les autres entreprises, ils doivent se dire, bon, on va faire comme la SNCF. Ça marche à la SNCF, pourquoi ça marcherait pas chez nous? Et d'ailleurs, vous parliez de syndicalisme. Bah, on en a un. Là, tout de suite, avec nous, c'est notre invité sur ce débat. C'est Julien Troca. Il est secrétaire fédéral Sudrail. Bonjour, Julien.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous, Julien. Est-ce que c'est la fête aujourd'hui du côté des syndicats après ces avancées obtenues avec Jean-Pierre Farandou?
Bah, pour ce qui concerne la Fédération Sudrail, nous, on est en train de consulter nos milliers d'adhérents et adhérentes qui en prendra une décision définitive d'ici le lundi 22 avril.
D'accord. Vous n'êtes pas content, alors?
Bah, je ne sais pas, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on avait un exercice démocratique, on demandait la consultation à nos adhérents et adhérentes. On a des milliers d'adhérents et adhérentes qui sont en train d'être consultés. C'est un accord avec plusieurs pages, donc ils sont en train de décortiquer et on a une consultation et ça va remonter à la fédération.
C'est pas gagné. C'est ce que dit la CFDT aussi.
La CFDT avait l'air de se féliciter et la CGT est contente. Alors, la CGT est contente.
Une chose, si je peux me permettre, il y a une petite guéguerre en ce moment entre syndicats. C'est grâce à qui qu'on a obtenu ça?
La CGT dit que c'est grâce à elle.
La CGT dit que c'est grâce à elle. La CFDT dit que c'est grâce à elle. Mais qu'avant de signer, comme c'est une formation démocratique, elle va d'abord.
Et Sudrail, ils disent quoi?
On a Julien Troca.
Ils ne nous emmerdez pas.
Et Julien, non mais a priori.
Maintenant c'est la guerre entre les syndicats pour savoir qui a obtenu ça.
N'importe quoi. Enfin, c'est toujours compliqué parce que je sais pas qui parle là, je devrais mettre une.
Alors là, c'était Rémi Barré. C'était Rémi Barré. Mais Julien, franchement.
Les syndicats. Enfin, je sais pas, on devrait être content qu'en gros.
Bah oui,
c'est juste que vous n'avez pas l'air content, c'est pour ça.
Laissez-moi finir, s'il vous plaît. On devrait être content de dire que c'est une décision démocratique, donc c'est celles et ceux qui travaillent qui prennent la décision et c'est pas trois chefs dans une fédération. Donc moi, ce que je vous partage juste, c'est que nous, on a un cadre démocratique et on donnera la réponse. Si vous jugez, parce que je vous ai répondu ça, que j'étais content ou pas content, bon ben, moi je suis syndicaliste, je suis pas commentateur de...
J'entends, mais c'est vrai que Julien Troca, on a quand même l'impression que ce sont de super avancées, voilà, du côté de la direction de la SNCF, parce que c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de parler.
J'ai entendu la direction SNCF qui disent on a fait des avancées mauvaises. J'ai jamais entendu un patron.
Surtout, je les ai jamais entendu dire qu'ils ont fait des avancées. Donc là, c'est quand même une première. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, on entend la direction juste pour dire il y en a marre des grèves, etc. Nanana. On a essayé de négocier, les syndicats n'ont pas voulu. Donc on a que des histoires de bisbilles. Là, on a l'impression que pour une fois, vous avez été entendu, vous les syndicats, que la direction a plié quelque part, enfin plié, il y a eu aussi des menaces de grève qui font que la direction a plié peut-être plus vite que prévu, mais qu'en tout cas vous avez obtenu ce que vous voulez.
Enfin, je pense, cette négociation là qu'il y a eu la semaine dernière.
Mais peu importe, Julien, alors attendez, combien d'entreprises en France peuvent se targuer d'avoir obtenu ce que vous avez obtenu parce que vous menacez de faire grève?
Non, mais donc je vous ai posé une question, vous m'avez dit peu importe. La négociation qui a eu lieu la semaine dernière, la dernière fois qu'on a parlé de ces sujets-là, c'était en 2008.
Ouais.
Enfin, pourquoi on parle de ces sujets-là? On parle des sujets de contre-réforme des retraites, où il y a un allongement des carrières professionnelles, et c'est depuis 2008 qu'on n'a pas eu des négociations sur ce sujet-là. C'est ça, c'est pour ça qu'on a eu. Après que vous y intéressez, parce que Jean-Pierre Farandou, il a refusé de négocier avec les contrôleurs et les contrôleuses au mois de février, il a renvoyé sur cette table ronde. Mais on peut se dire entre nous, il n'y aurait pas eu ça, vous n'auriez jamais parlé de la table ronde sur les temps partiels, les aménagements de fin de carrière, et vous ne serez pas là en train de nous dire c'est super les avancées que vous avez eues. Donc faut tout remettre à son niveau. Il y a une négociation, une table ronde, il y a une consultation, et la vie sociale d'une entreprise va continuer.
Moi, mais la vie sociale, ça veut dire quoi, Julien?
Ça veut dire que, par exemple, il y avait quelqu'un sur votre plateau qui fustigeait qu'il n'y avait pas de ruissellement. Je peux vous dire, par exemple, sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, vous savez ce qu'on est en train de dire au patronat du nettoyage ferroviaire? C'est pas des cheminots et des cheminottes, mais nous, on les syndique. Nous, on est en train d'exiger aussi qu'il y ait des ouvertures de primes pour celles et ceux, les travailleurs et les travailleuses qu'on a applaudis pendant le Covid, et qu'il y a des augmentations de salaire. Donc, s'il y en a qui sont
mais
pas
satisfaits
et qui pensent... Non, mais on disait qu'il n'y avait pas de ruissellement.
Ça va être moins facile à obtenir, vous allez voir.
Comment?
Ça va être moins facile à obtenir. Les entreprises de nettoyage vont moins le faire, je pense.
Vous rappelez au mois d'août, quand les poubelles débordaient à Gare Saint-Charles et qu'il y avait une visite, je crois, au ministre? Vous verrez, si toutes les gares de France celles et ceux qui sont invisibles et font pas.
Ah, donc c'est encore une menace?
C'est ça.
Attends, mais, excusez-moi, là, j'ai pas compris, là. C'est, bah, si. Non, mais si. En fait, là, excusez-moi, vous êtes en train de menacer une nouvelle fois de faire grève?
Non,
mais bah si, c'est ce que vous faites.
J'ai parlé de grève.
Non, mais attendez, vous venez de me dire, vous vous souvenez quand les poubelles débordaient?
Il y a quelqu'un sur votre plateau qui nous est passé pour des corporatistes, des cheminots et cheminotes qui pourraient.
Oh bah non, jamais.
Alors, non, jamais, alors, pas, alors, pas, alors, là, pas déconner. Jamais j'aurais dit un truc pareil, hein, quand même.
Ah bon? Ouais, non, mais c'est sûr que de toute façon, c'est toujours. Et donc, ça a même été évoqué le mot ruissellement.
Oui, c'est Thierry Moreau qui l'a dit.
Voilà, que dans le secteur ferroviaire, il y a des salariés dont le nettoyage ferroviaire, et que pour l'instant, il n'y a pas de menace de grève. C'est juste qu'on dit, on a écrit au patronat de dire, ça serait bien qu'on ouvre des négociations.
Ah oui, ce serait bien que. Voilà, bah écoutez, si le ce serait bien que ne se transforme pas en grève pendant les JO, écoutez, tant mieux. Souvent, le ce serait bien que.
Vous pensez qu'il mérite pas des primes, c'est ça?
Mais bien sûr que si, mais qui a dit l'inverse? Qui a dit l'inverse?
Pourquoi il lâche pas les primes, là, pour l'instant?
Non, mais attendez, ils ont déjà la. Mais je sais pas dans quel monde vous vivez, quoi. Pardon, mais on a sur le plateau, on a Emmanuelle Dancourt qui est indépendante. Elle a rien. Voilà, c'est simple, elle a rien. Je veux dire, elle a pas de patron, elle a rien. Elle ne bénéficie de rien.
Pas de chômage.
Elle n'a pas de chômage, elle n'a pas d'arrêt maladie, elle a rien.
Pas de 13e mois.
Elle a des congés payés en indépendant. Non, elle a pas de congés payés, elle est indépendante. Elle a rien. Et vous avez quand même énormément de salariés en France. Dans des entreprises, les gens, ils vont travailler jusqu'à 64 ans. Ils vont pas travailler.
Bien après 64 ans.
On est payé à temps plein. Je veux dire, ça n'existe pas. Vous avez obtenu des trucs super, Julien Trocazement. Franchement, mais bravo à vous. Et tant mieux. Mais là, revenir.
Tu comprends pas ce que c'est la mentalité quand on est à l'extrême gauche. Hein, c'est de tout renverser. Donc, il s'en fout complètement des malheurs des uns des autres. Lui, ce qu'il veut, c'est la révolution permanente.
Non, mais c'est pas ce qu'il dit. Bon, allez-y, Julien. Et c'est vrai que ne jamais se féliciter de ce que vous obtenez, je ne comprends pas.
De quoi?
Ne jamais se féliciter de ce que vous obtenez, je ne comprends pas. Voilà, c'est un truc que je ne comprends pas.
Mais en fait, c'est vous qui vous excitez tout seul, en fait.
Bah non. Nous, non.
Ah si. Bah attendez, est-ce que vous pouvez attendre lundi la consultation au sein de ma fédération et que après vous reveniez la semaine prochaine et que vous me taxez, que je ne sais quoi si. Que on se félicite pas, mais attendez juste qu'on a le droit quand même d'être consulté.
Mais en fait, quand vous nous dites aujourd'hui, ouais, souvenez-vous des poubelles qui débordent Gare Saint-Charles, on peut refaire la même chose.
Il y a un intervenant sur votre plateau qui nous a fait passer pour des corporatistes en disant on pense qu'aux cheminots et cheminotes. Je persiste aussi, vous ne me la fera pas fermer. Je persiste aussi de dire qu'on ne pense pas qu'aux cheminots et cheminotes et aux conducteurs de train ou aux contrôleuses ou aux aiguilleurs. Oui. On pense aussi à des salariés qui sont dans le secteur privé, qui n'ont pas de statut. Et je vous ai donné l'exemple du nettoyage ferroviaire. Et
d'accord.
C'est ceux qui vont nettoyer. Quand vous prenez le TGV et qui ramassent vos déchets dans le TGV, on va penser aussi à eux.
Et si je reprends vos mots, vous avez dit on va leur demander, leur donner le conseil de demander les mêmes augmentations. Et moi, je vous dis, ça va être moins facile qu'avec Farandou.
Peut-être que ça va être moins facile. Et je vous ai dit des fois, quand eux, ils cessent le travail, ça se voit. On voit leur intérêt, je vous ai donné l'exemple de.
Et donc on est dans la menace.
Au mois d'août. Voilà, c'est quoi? Enfin, la vie, c'est un rapport fort, sauf si vous. C'est vous qui êtes dans un monde de bisounours.
Ça n'empêche pas les trains de partir, que les gens du ménage soient pas là. Hein.
Ah non, ça n'empêchera pas.
T'as les gardes dans un état.
Ouais, mais c'est
moi, je suis passé à Saint-Charles pendant les grèves, j'ai jamais vu un truc pareil. Je t'assure, il y avait des monceaux d'immondices, t'avais des.
Oui, mais ça t'empêche pas de faire ton voyage.
Ouais,
c'est pas la même pression quand même.
Je peux te dire que ça te.
Pas la même pression.
Ça te marque, je t'assure que ça te marque.
Image internationale, caméra.
Mais c'est pas les mêmes salaires parce que les personnes qui ramassent les ordures dans les TGV, je peux vous dire qu'ils partent pas avec une retraite qui est indexée sur les 6 derniers mois de salaire, par exemple. Juste un exemple, hein. C'est juste un détail.
On va remercier Julien Troca. Merci Julien en tout cas d'avoir été avec nous et j'aimerais qu'on vous rappelle la semaine prochaine et que pour avoir le résultat de cette consultation du côté de votre fédération, a priori tout le monde a l'air plutôt content et puis j'aimerais vous entendre vous féliciter du résultat de cette consultation si ça marche et si vous êtes d'accord finalement avec votre direction. Merci Julien Troca d'avoir été avec nous. On va terminer avec des messages. Rémi, c'était passionné sur le plateau, donc on n'a pas eu le temps de prendre beaucoup de monde à l'antenne.
Ça a été passionné également sur Direct Studio, ce message de Johan qui nous dit dire qu'on parlait tout à l'heure de moralité au sujet du salaire de Monsieur Tabarès, la blague, ce qui se passe à la SNCF depuis des années, est inacceptable.
Il y a Ludovic également qui nous appelait d'Aix en Provence et qui lui est choqué justement qu'on puisse effectivement octroyer tellement d'avantages juste parce qu'il y a des menaces de grève. Alors on a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi, des avantages pour éviter les grèves. Est-ce logique ou choquant?
C'est choquant pour 7 personnes sur 10. 70% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Ah oui, donc c'est quand même une très forte majorité. Dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC, on se demandera s'il faut sanctionner plus durement les parents de mineurs délinquants. En tout cas, c'est ce que préconise le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui a tapé du poing sur la table. On parlera également de sécurité routière. Très, très mauvais chiffre. C'est peut-être dû au fait qu'il n'y ait plus de retrait de points pour les petits excès de vitesse. Et puis, on parlera de la sieste. Faites-vous la sieste au travail. Il paraît que c'est très bon pour la santé. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h32, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Emmanuel Dancourt et Daniel Riolo. Et tout de suite, c'est l'heure du zapping, le meilleur d'RMC, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on démarre avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Faut-il sanctionner plus durement les parents de mineurs délinquants? Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, prépare un projet de loi qui durcirait les sanctions pénales pour les parents qui se soustraient à leurs obligations légales. Mais pour Axel, auditeur RMC, il faut aussi et surtout responsabiliser les enfants.
Je dirais qu'il faut sanctionner les parents, oui. Mais il faut sanctionner les enfants aussi, il faut les responsabiliser. Parce qu'aujourd'hui, bah, ils n'ont rien du tout.
Bah, ils sont jugés comme des mineurs, donc effectivement, voilà. Ils prennent des peines un peu plus faibles.
Bah, ouais, des peines,
ou pas du tout.
Ou pas du tout, on dirait. C'est plus souvent pas du tout qu'ils prennent des peines, on dirait. Je suis parent, j'ai 2 enfants. Je suis confronté avec mon grand qui a des problèmes depuis que je suis divorcé. Donc je suis pas célibataire. Moi, j'ai la maman, elle s'en fout royalement.
Ah oui, carrément.
Mon fils qui a fait des conneries. Aujourd'hui, j'ai payé. Sauf que il faut que mon fils il en subisse les conséquences aussi. Donc, j'ai contacté le maire de ma commune pour qu'il balaye les rues.
Et il veut bien le maire? Est-ce que le maire veut bien? Parce qu'il est capable de vous dire que non.
Il n'a pas le droit.
Voilà.
Voilà,
il n'a pas le droit.
Il a pas le droit.
Voilà.
Emmanuel Dancourt, est-ce qu'il faut être plus sévère avec les parents de mineurs délinquants?
Le problème, c'est que les peines actuelles ne sont pas appliquées. Donc, à quoi ça sert d'augmenter les peines, de passer de 2 ans à 3 ans de prison et jusqu'à, je crois que c'est 35 000 euros d'amende si je me trompe pas. J'ai un doute. Si déjà ce qui est en place n'est pas appliqué. Et le problème, en fait, c'est la justice. C'est-à-dire que quand un mineur fait une énorme bêtise, la justice, elle est très très longue et la réaction, elle n'est pas immédiate. Il y a un premier rendez-vous, 6 mois après, il y a un deuxième rendez-vous et puis 6 mois après encore, éventuellement, une application de la sanction. Et tout ça, c'est pas du tout pédagogique. Tu vois, il rencontre 2 fois le juge pour les enfants qui est déjà débordé, donc un seul rendez-vous pourrait peut-être suffire. Et la sanction est tellement pas immédiate que ça, il n'y a pas le côté pédagogique de la sanction. Et puis de l'autre côté, donc tu as des jeunes qui sont dans un monde qui devient hyper violent, hyper sexualisé aussi, et tout ça grâce aux réseaux sociaux notamment, mais pas que. Et puis de l'autre côté, t'as des parents, mais est-ce qu'ils sont défaillants les parents ou est-ce qu'ils sont dépassés? Et on a ôté aussi tous les éducateurs de rue quasiment qui faisaient un travail incroyable. Donc là, il y a rien qui se tient, quoi. Il y a rien qui est cohérent. Il y a rien qui. Commençons par appliquer déjà les peines qui existent. Commençons par remettre des éducateurs dans la rue. Commençons par expliquer aux ados et les faire payer eux. Et peut-être que si vraiment le parent est défaillant. S'il y a défaillance du parent, la peine, elle existe déjà. Si le parent est dépassé, il y a peut-être besoin d'aide.
Daniel Riolo, vous êtes d'accord avec ça?
Tout ce qui est éducateur, tout ce qui est les tentatives pédagogiques, depuis des années, malheureusement, le constat est terrible. Il y a plus de choses qui échouent qui réussissent. L'histoire récente que j'ai lue sur l'éducateur qui était un ancien boxeur qui avait réussi, malheureusement j'ai oublié ville en banlieue, ouais. Où il officiait, où il avait créé des associations et tout. Je crois qu'il est dans le coma aujourd'hui parce qu'au bout d'un moment, les trafiquants ont estimé que son travail les empêchait eux de bosser. La violence, elle a atteint un tel degré que même quand tu mets certains jeunes en face de toi et que tu essaies de communiquer, ils ne comprennent pas ce que tu dis.
Mais il aurait fallu les prendre au début, parce que ça commence en maternelle,
Ils sont quasiment en rupture de civilisation, ouais. De la façon que tu vas avoir d'échanger par les mots. Ils ne vont comprendre que la violence. Donc, soit la réplique, elle sera très forte.
À la base, c'est un manque d'éducation.
Daniel, oui, mais si tu les avais pris dans la rue tout petit,
donc c'est les parents. Si les parents ne sont plus là, parce qu'ils sont dépassés ou démissionnaires, ou...
Bah oui, mais d'où les éducateurs de rue, en fait.
D'où les éducateurs de rue dès le départ.
Aujourd'hui, il ne va y avoir qu'un seul truc qui pourra réduire ça, ce sera la force. La force, ce sera la chose qu'on n'a jamais essayé, à savoir de responsabiliser les parents, mais qui, de toute façon, pour la plupart, seront insolvables. Donc, quand tu les menaceras d'amende, ils ne pourront pas te payer. Donc, tu seras face à ça comme difficulté. Deux, ça et maladie. Malheureusement, les lois, il y en a, mais c'est l'application des peines qui pose souci. Donc, il faudra aller au-dessus, construire des centres spécialisés, des prisons spécialisées. On en revient toujours à ça. C'est est-ce qu'il y en a assez ? Alors déjà que pour les adultes, il n'y en a pas assez. Pour les mineurs, ça va être compliqué. Mais on est face à un problème qui est beaucoup plus grand qu'on veut bien le penser. Vraiment.
Thierry Moreau, est-ce que ça va dans le bon sens, ce que veut Éric Dupond-Moretti ?
Je pense qu'il faut vraiment faire de la dentelle et du sur-mesure parce qu'on a face à nous deux types de populations. Il y a des familles effectivement qui sont dépassées, débordées, des mamans solo pour la plupart, etc. Où là, il y a vraiment besoin d'aide. Et puis il y a des familles où je dirais que les enfants sont comme les parents. Il y a eu un récent fait divers où l'expédition punitive, on a appris après l'enquête de police que c'était le père qui avait organisé l'expédition punitive avec son enfant mineur. Donc ça veut dire que là, il y a un effet d'entraînement et là-dessus, pour le coup, effectivement, il faut que tout le monde soit condamné. Je ne serais pas si radical que toi sur le fait que ça ne fonctionne pas, les éducateurs. Il y a quand même eu, et là, beaucoup de gens s'accordent, y compris beaucoup de syndicats de policiers, sur le fait que l'absence de la suppression de la police de proximité il y a quelques années...
Ce n'est pas les éducateurs, les polices de proximité.
Non, on a supprimé et les éducateurs et la police de proximité. C'est ça le problème.
Très important de leur travail. Et ça a été un tournant.
Voilà.
On le sait tous aujourd'hui. Et beaucoup de gens, y compris des syndicats policiers, mettent le doigt là-dessus. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Mais... tout le monde met tout le monde dans le même sac, je pense pas. Il faut vraiment faire de la dentelle si on veut supprimer effectivement ou sanctionner les parents des enfants qui sont délinquants.
Charles Matin, ce matin sur RMC, l'État fait-il n'importe quoi en matière de sécurité routière ? C'est du jamais vu depuis 10 ans. La mortalité sur les routes au mois de mars est en hausse de 31% par rapport à l'année dernière. Une très mauvaise nouvelle qui est à mettre en rapport avec la fin du retrait de points sur les petits excès de vitesse. Selon Pierre Lagache, il est vice-président de la Ligue contre les violences routières.
Ce qu'on observe, c'est que la dégradation, elle démarre au mois de septembre dernier. Donc depuis 7 mois, nous avons un bilan qui se dégrade au niveau de la sécurité routière. Tous les experts étaient clairs sur ce sujet. Le fait d'assouplir le permis à points est une très mauvaise mesure parce que ça envoie un mauvais signal à la population. Ça veut dire clairement, nous ne nous occupons plus de la sécurité routière. Il y a eu des propos très clairs du style... il faut arrêter d'emmerder les Français. Les Français adorent la bagnole. Voilà, tous ces signaux, si vous voulez, renvoient à la population le fait que la sécurité routière n'est plus une priorité alors que la situation se dégrade, alors qu'elle reste la première cause de mortalité de nos jeunes.
Thierry Moreau, est-ce qu'on peut dire que c'est finalement la faute de l'État qui a enlevé la suppression de points pour les petits excès de vitesse ?
Je pense qu'il y a une vraie responsabilité de l'exécutif et de l'État dans tous ces aspects. Je rappelle que le seul président, et Dieu sait si pourtant il a un bilan qui n'est pas terrible quand on regarde avec l'histoire, le président Chirac a été le seul à s'attaquer vraiment au problème de la sécurité routière de manière... mais massive.
Avec les campagnes de pub.
Avec les campagnes de pub, avec durcissement des lois, etc., etc. Là, aujourd'hui.
Sarkozy aussi avec les radars.
Oui.
Il était ministre de l'Intérieur à l'époque.
C'est vrai.
Un vert, ça va, trois verts, bonjour les
en
dégâts.
En deuxième rang, il y a effectivement en tant que ministre de l'Intérieur. Mais là, on assiste effectivement à ce message qui a été envoyé en disant aux gens, c'est pas grave, les petits excès de vitesse vous enlèvent pas de points. Rappelons quand même que les gens qui perdent leur permis à la suite d'un cumul de petits points, c'est extrêmement rare. C'est
oui, donc c'est pas forcément eux qui créent les accidents mortels, en fait.
Non, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, quand vous dites, c'est un signal qu'on envoie. Quand vous dites aux gens, on vous permet d'un petit peu plus et que ça ne vous coûtera qu'une amende, eh ben, on pousse le curseur. Vous savez très bien, quand
un signal d'impunité.
Le bouchon un peu plus loin, eh ben, on pousse la tolérance un peu plus loin.
T'es pris à 56, 57, allez, ça ira.
Non, mais d'accord, mais attends, l'amende, elle est quand même de 135 euros. C'est pas une petite amende, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est aussi dissuasif. T'as aussi des gens qui ont autant peur de l'amende que du retrait.
Il y a un côté sacré du point, et je pense que plein de gens, l'idée de ne pas perdre de points, ça les a confortés dans le fait qu'ils pouvaient faire des petits excès de vitesse. Et je pense que c'est une catastrophe. Il faut absolument reprendre à bras le corps le problème de la sécurité routière. Il y a des associations comme celle de Yannick Aleno qui travaillent beaucoup dans ce sens-là. Il faut absolument investir là-dessus massivement, des campagnes de prévention, durcissement des sanctions, etc., etc.
Et toujours rappeler qu'on est pris à 52 ou 53 km/h en agglomération.
29. Pas trop, c'est parce qu'on était à près de 60.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a déjà une
et
marge d'erreur.
Ceux qui disent qu'ils ont été pris pour 1 km, en fait,
c'est,
non.
Oui, c'est plutôt 6 ou 7. Emmanuel Dancourt, est-ce qu'il faut revenir, justement, sur cette loi qui vise à ne plus enlever de poids pour les petits excès de vitesse?
Complètement. Ah non, mais moi, je suis complètement sur la ligne de Thierry. Évidemment, de toute façon, les chiffres le prouvent, hein. C'est juste, on regarde
on
les chiffres,
que ce soit ça, hein.
C'est très mauvais.
Oui, mais on n'est pas sûr que ce soit ça.
Oui.
Enfin, c'est marrant, il y a une corrélation.
Bah, c'est quand même vachement bizarre.
Il y a peut-être une corrélation. Aussi, en tout cas, voilà.
Je suis d'accord avec vous, hein, sur tout ça. Là, vous vous enflammez, là. 52. On peut pas perdre son permis avec les petits points. Bah, si, de 12, ça va très vite. Ça m'est arrivé de descendre jusqu'à 3.
Sur le nombre de permis annulés, excuse-moi, c'est factuel. Sur le nombre de permis annulés, je crois que c'est une centaine par an qui concerne les petits points.
C'est normal, puisqu'il y a le système qui t'oblige à aller faire le stage à 3 points ou à 4 points. Donc, t'engraisses.
Reste la machine, des
espèces de stages qui servent à rien, là où t'es enfermé pendant un week-end.
Non, mais c'est d'abord, bon. C'est pas le week-end, arrêtez. Ça peut être en semaine. Et je peux te dire qu'en ce moment, il y a
mais
une
pour
chute.
Pour la plupart des gens, c'est le week-end, ils vont pas poser un jour pour aller suivre ça quand même.
Et les gens, les stages sont désemplis actuellement. Écoute, de récupérer
quoi. Cette histoire que 52, ça, tous ces radars que tu mets dans la descente pour te choper à 52 et on t'enlève 20 points, c'était absurde. Donc moi, je pense que Darmanin a très bien fait sur ce coup-là d'éviter d'enlever un point quand t'es à 51 ou 52.
Et
c'est pas ça qui fait un mort sur la route, Thierry. Arrête un peu de raconter n'importe quoi.
Emmanuel, c'est
toi qui raconte n'importe quoi.
Tu sais tout le monde, tu responsabilises tout le monde, tu vois des assassins partout. Bon, arrête
Emmanuel,
un peu.
Taisez-vous.
Prends ton vélo et puis c'est tout.
Taisez-vous, Emmanuel Dancourt.
Moi, non, mais j'avais une question pour Daniel. Si c'est prouvé que c'est dû à ça, le taux d'accident.
Ouais, elle est où la preuve?
Et la question.
Si c'est prouvé, tu serais d'accord pour reculer sur la loi?
Si tu me le prouves, mais c'est pas prouvé.
C'est pas prouvé, toutes les associations routières disent que c'est ça.
Non, c'est pas prouvé du tout.
Non, mais...
Eh ben, moi, dans le doute, tu vois, Daniel, honnêtement, dans le doute, on s'abstient pas.
Les morts, c'est
pas,
celui
en fait.
Qui prend de la drogue, c'est l'alcool au
mais
volant.
Mais pas que
c'est celui qui roule
la vitesse,
140.
C'est la vitesse.
Mais oui, mais 52, c'est pas de la vitesse là où t'es à 50.
Mais ça peut tuer.
Ça peut tuer 50 km/h dans une ville.
Il y a un gamin qui a été renversé dans un parking, il n'était pas à 90 à l'heure.
Dans un parking, il était à combien?
Il roulait ou pas?
Donc
il a tué un gamin de 2 ans.
Il y a une limitation dans un parking?
Absolument.
Bah oui. À combien?
Tu roules ou pas?
Bah oui,
tu roules ou pas. Donc c'est pas 52 au lieu de 50. Tu roules ou pas? Donc là, on parle d'un inconscient qui est sur un parking. Il y a un radar dans un parking. Il y a un radar dans le parking.
Problème,
comment
Daniel,
tu fais respecter la limitation
de la parking? Tu peux tuer un gamin à 30 km/h.
Mais le système, c'est pas ces jours.
Le jour où c'est ton gamin, tu vas voir, tu vas changer d'avis. On ne prend pas le risque.
Mais le risque de quoi?
On a passé une loi. Il se trouve que le taux d'accident a augmenté largement, le taux de mort aussi.
Respecte la loi de Darmanin. Il n'enlève plus les points pour
on
ça,
recule.
Donc voilà, c'est tout. Et la majorité des Français ne veulent plus de ça non plus.
La majorité des Français, quand elle aura perdu son fils ou sa fille dans un accident, elle changera d'avis. Hein.
Allez, la petite leçon de morale, on va y aller.
Écoute,
là,
pardon.
Bon, on va se détendre avec de la sieste. Hein voilà, avec Apolline Matin ce matin sur RMC.
Valérie, c'est à vous, Daniel.
On n'a pas de spécialiste sur le sujet, chasserait ou machin l'eau.
Mais ça vous ferait du bien. Tiens, une petite sieste au travail, Daniel, ça vous ferait du bien. Alors que dans certains pays comme l'Espagne, la sieste est fortement ancrée dans les habitudes. En France, elle s'installe à petits pas dans les entreprises. Et Charles Magnin nous rappelait ce matin tous les bienfaits de la sieste. Écoutez.
Vive la sieste, Apolline. Sondage américain mené auprès de 1200 employés. Un tiers d'entre eux avouent faire régulièrement la sieste pendant leurs horaires de travail. Il faut dire que les bienfaits de la sieste ont été maintes fois démontrés par la science. Ça compense une dette de sommeil la nuit. Ça rebooste la productivité pour les heures suivantes. En France, la sieste au boulot est loin d'être devenue une habitude, même si de plus en plus d'entreprises installent des salles de repos qui permettent de fermer un peu les yeux. D'ailleurs, dans un sondage mené l'an dernier, 7 Français sur 10 se disaient favorables à la sieste au travail, à une condition, ne pas devoir partir plus tard le soir.
Alors, Daniel, vous faites la sieste, vous?
Ah, moi, j'ai
pas assez, je pense.
Mais moi, comme j'ai des horaires où je travaille le soir, effectivement, il peut m'arriver en fin d'après-midi, une fois que tout est calé, on va dire entre 18 et 19 heures, oui, il peut m'arriver de m'endormir 10 minutes. Ouais.
Non, mais ça doit être horrible quand tu mets le réveil là à 19 heures.
Non, mais il faut pas mettre le réveil. Je te parle pas. La sieste qui a un problème, c'est si tu t'endors trop longtemps, genre une heure, tu te réveilles, t'es tout embué, c'est un peu un problème. Mais moi, 10 minutes, ça requinque.
Mais comment tu sais que tu vas dormir 10 minutes?
Après, c'est une habitude que tu prends. Après, c'est une habitude. Après, il m'arrive
parfois. Moi, je me couche pour 10 minutes, je me réveille 9 heures après.
De ne pas le faire, mais si. Mais j'y tiens, ouais. J'aime bien arriver à 18 ou même de 19 à 19-15 par là. Et comme ça, après, je dîne et je peux venir pour l'émission et je suis en forme le soir.
Je vais essayer, mais moi, j'ai trop peur de ne pas me réveiller.
Mais toi, tu n'as pas cet horaire-là. Donc,
non.
C'est vrai, quoi, ouais. Peut-être en rentrant, je ne sais pas, à 16h, tu peux faire 16h.
Non, j'ai autre chose à faire. Tu peux... Non. Impossible. Rémi, toi aussi, tu fais la sieste?
Oui, mais je le fais moins aujourd'hui, mais je l'ai fait pendant longtemps.
Enfin, c'est pareil, avec des horaires. La sieste, c'est qu'une affaire de rythme. Les Espagnols, quand on dit, ils font ça, mais souvent, ils commencent tôt, ils déjent un peu tard, et après, ils quittent le bureau peut-être vers 20h, parce qu'après, ils dînent à 22. C'est juste une affaire de rythme, de comment organiser ta journée. C'est pas sieste, je fais la sieste de 14h à 17h, je suis un gros flemmard. C'est pas ça la sieste.
Ça, c'est une grosse sieste. Ouais. Dans un instant, il y aura RMC s'engage avec vous. On va tenter d'aider Rachid. C'est un fils de Harki qui attend désespérément son indemnisation. Et puis à 14h, on parlera de l'explosion du nombre de loyers impayés en France. Est-ce qu'il faut expulser sans délai les locataires indélicats? A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h51, vous êtes sur RMC, RMC Story dans Estelle Midi, et c'est l'heure de vous aider dans Estelle Midi avec tout de suite RMC s'engage avec vous.
Estelle Midi,
RMC s'engage avec vous.
Et avec Solène Leroux. Et aujourd'hui, Solène, on va tenter de venir en aide à Rachid, un fils de Harki.
Rachid qui, comme tous les Harki et leurs descendants, a droit à une indemnisation. Les Harki ont travaillé pour l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Beaucoup le savent. Considérés comme des traîtres, certains ont été rapatriés en France, parqués dans des camps. On estime qu'ils étaient 90 000. Et c'est pour réparer cette injustice que l'indemnisation a été votée par la France en 2022. Mais cet argent, Rachid l'attend toujours.
Quand je leur demande pour quelle raison, ils me répondent, on règle déjà en priorité la première génération. Ben, je suis d'accord. Mais pourquoi mes sœurs et mes frères, ils ont touché et que moi, ça n'a pas été réglé?
Oui, ça paraît quand même bizarre que ses frères et ses sœurs aient touché l'indemnisation. Et oui. Pas lui, c'est quoi le problème?
Eh ben, c'est le... Oui.
Oui.
On verra, effectivement, peut-être le problème un petit peu plus tard. Là, cette somme, en tout cas, elle lui serait bien utile à Rachid parce qu'il a deux grands-fils. Il aimerait pouvoir les aider au mieux pour le permis, les études, on peut le comprendre. Mais surtout, c'est une réparation, un moyen de reconnaître l'humiliation que les Harki ont vécu pendant de nombreuses années dans ces camps. Et même pour la Cour européenne des droits de l'homme qui a rendu un avis sur la question il y a deux semaines, les montants restent insuffisants au regard des préjudices subis. Rachid a une estimation de la somme.
C'est entre 16 000 et 18 000 euros. Moi, j'aimerais que ce soit réglé, quoi. Après, ça a toujours été comme ça. Hein. Les Harki, c'est une épine dans le pied du gouvernement.
Est-ce que vous avez réussi à l'aider, Solène?
Eh ben, on a contacté l'Office national des combattants et des victimes de guerre. L'ONAC, ce sont eux qui gèrent les indemnisations pour les Harki. On nous explique en fait que les délais, ils peuvent être longs face à l'afflux de demandes depuis la loi il y a deux ans, parce qu'évidemment tout le monde a demandé l'indemnisation en même temps. Donc il y a déjà 15 000 dossiers qui ont été traités. Il en reste désormais 19 000. Et parmi ceux-là, c'est bientôt le tour de Rachid. C'est la bonne nouvelle du jour. Une source proche du dossier nous l'a confirmé tard hier soir. Sa demande va passer en commission en mai, donc dans un tout petit mois. On veillera bien sûr à ce que Rachid reçoive bien son dû. Je l'ai eu tout à l'heure d'ailleurs, il nous remercie.
Ah, c'est chouette. Ouais, il va te recevoir donc entre 16 et 18 000 euros.
A priori, c'est la somme qu'il va recevoir. Oui.
Bon, mais écoutez, on est très très content pour lui, en tout cas, si ça accélère son indemnisation. On parle de quel cas demain, Solène?
Et ben, demain, on parle de Chemsex. On a beaucoup parlé au moment de l'affaire Palmade. Vous allez voir. Il y a un élu qui nous a interpellé à ce propos parce que c'est un phénomène de société.
Ouais, faut rappeler ce que c'est.
Et il demande...
oui, c'est le sexe sous soumission
chimique. Emprise,
exactement, tout à fait. Et en fait, cet élu qui nous a interpellé, il demande davantage de prévention justement pour éviter des drames comme on en a connu lors de l'affaire Palmade, en l'occurrence. Voilà, on vous en reparle plus en détail demain, et ça sera même Amélie Rosy qui vous en reparlera.
Il sera de retour. Et merci beaucoup Solène Leroux, et puis vous aussi n'hésitez pas à contacter les équipes d'RMC s'engagent avec vous à l'adresse rmcavecvous@rmc.fr. Dans un instant, on parlera de l'explosion du nombre de loyers impayés en France. Le nombre a triplé depuis 3 ans. Est-ce qu'il faut expulser sans délai les locataires indélicats? Dites-nous ce que vous en pensez au 3216. Dites-nous par exemple si vous avez aussi vous eu du mal à payer votre loyer, ou si vous êtes propriétaire et que vous avez eu du mal à déloger un locataire indélicat. On vous attend au 3216 et sur l'appli RMC. À tout de suite.